CFM Villefranche, le mag.
Le mag, oui alors, même le mag Aveyron, début de semaine. Le mag santé, bien-être, fleurette, pâquerette, assiette, avec Karine. Avec. Donnez-moi un V, un E, un Q, un U et un E. Et Karine est avec nous en studio, notre pomme-pote girl nationale, de retour après un beau menu. Hein. Félicitations.
Ah, vous avez aimé. Ouais. Non, mais je pense que vos goûts se transforment, David, à mon contact au fil des ans.
Un vrai tournant, c'est un mois qui n'est pas facile. On le sait, le mois de mars en termes de menu. Et là, cette année, 2023, on le note dans le calendrier. Waouh, one shot, c'est passé.
Mais je pense que si je vous avais proposé ce menu il y a 10 ans, vous auriez hurlé la mort.
Peut-être.
Ouais,
peut-être,
non, mais c'est sûr, David.
Peut-être.
Vous rangez à la raison.
Non.
Là, je vous bonifie.
Non, il y avait des petites choses comme ça un peu surprenantes, ce petit dessert-là de lamelles d'orange. On n'en mangerait pas tous les jours, mais là, pile, c'est bien tombé. Je crois que ça a illuminé tout le menu. Est-ce qu'il n'était pas éclairé le matin? Ça finit par l'éclairer grâce au midi.
Bon, mec, je suis ravi, David.
On me cognait les dents sur le micro. À m'agiter comme un...
Bon,
allez,
très bien.
De quoi,
allez.
Mais alors, vous avez dit quelque chose de très important la semaine dernière. Et on avait peut-être... Vous aviez déjà peut-être abordé le sujet sur votre chronique. La chronique de la crise avec les aliments qui remplissent, mais qui nous permettent de ne pas trop envoyer de calories.
Oui.
Calories et volume. Et comment volume de l'aliment et les calories.
Oui.
Tout ça dans la balance. C'est
oui.
Ça aujourd'hui.
Oui, exactement. Finalement, parfait. Bon, bah, au revoir, à la semaine prochaine.
C'est ça.
Non, effectivement. En fait, on le sait, mais c'est vrai que là, on aura beaucoup parlé de ça sur ces dernières semaines, mais je crois quand même que c'était important qu'on le rappelle. Et effectivement, aujourd'hui, se pose réellement la question si ce qui va nous amener à satiété, c'est plus cette question du volume que l'on a ingéré, comme vous disiez, David, à l'instant, ou bien si c'est le nombre de calories que l'on consomme. En fait, hein. Et jusque-là, c'est vrai qu'on parlait toujours calories.
Bah, hein, la calorie n'empêche pas le volume, hein, non plus. Hein. C'est là où ça devient dangereux.
Ouais, c'est là où ça peut faire un bis-bis, effectivement. Mais vous, ce que je veux dire, c'est que vous alliez voir une diététicienne il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on vous calculait un nombre de calories.
Oui,
aujourd'hui, enfin là, au printemps, on va voir bientôt fleurir tous les régimes miraculeux.
Ouais, ouais.
On va vous dire 1300 calories. On parle en calories, c'est notre référence.
Ah, oui.
Or, bon, c'est normal, hein, c'est l'échelle, enfin, c'est la mesure de l'énergie que dépense notre alimentation. Ok. Mais cela dit, on essaye, nous, dans nos professions, en tous les cas, de s'en détacher le plus possible.
Oui,
ça paraît évident, mais il faut quand même l'exprimer, je crois, à voix haute. Des fois, il y a des vraies vérités qui sont bonnes à dire.
Bah, la nutrition, la diététique a quand même évolué, effectivement. Les régimes des années 80, de nos tantes, de nos mamans,
c'est aujourd'hui, pas la même chose.
Ouais.
Et aujourd'hui, donc, on sait de plus en plus que, bah, finalement, c'est le volume que l'on va consommer qui va être presque le plus important. Je vais vous donner vent d'une étude qui a été menée et que j'ai trouvée super intéressante pour argumenter mon propos. En fait, ils ont pris un groupe de personnes et alors ils leur ont fait consommer trois choses différentes. D'accord, trois choses différentes. Et puis, ils les suivaient pendant les heures qui suivent de manière à analyser leurs sensations alimentaires, la durée de la satiété. Enfin, vous voyez, tous ces paramètres qui sont super intéressants. Alors, ce qu'ils avaient fait, ils ont fait manger, c'est très précis, 38 grammes de chocolat au lait, ce qui amène 200 calories. Enfin, en tous les cas, celui qu'ils avaient choisi. D'accord ? Donc ça, c'était le premier test. Ça fait à peine 4 carreaux, hein, pour donner une idée. Ils avaient fait manger ensuite de la pomme fraîche, d'accord, donc qui était appareillé pour le poids, c'est-à-dire que c'était 38 grammes de pomme, pardon, et ça représentait 20 calories, donc rien du tout. Et troisième aliment, c'était des pommes aussi, mais cette fois-ci appareillées pour les calories. Et donc, pour obtenir nos 200 calories, les cobayes ont consommé 380 grammes de pommes. Ça fait deux belles grosses pommes. D'accord ? Donc, vous voyez, au niveau du volume. Donc, ils ont essayé, en mettant les choses sur les mêmes curseurs comme ça, de voir ce qu'il en était finalement. Eh bien, figurez-vous, qu'est-ce que vous en dites, tiens, d'ailleurs, vous, David, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis perdu, là, moi, dans les pommes, les grammages, mais je reste persuadé que le volume est préférable au calories, puisque bah, si le bol alimentaire est plein, bah, on s'arrête de manger, c'est plutôt une bonne chose. Donc, ouais. Voilà.
Alors, je répète vite fait, premier cas, on va le dire dans ce sens-là, 380 grammes de pommes pour 200 calories. Deuxième cas, 38 grammes de chocolat, toujours pour 200 calories. Ouais. Et troisième cas, 38 grammes de pommes pour 20 calories. D'accord.
Donc 38 ont... grammes de pommes, non.
Pour 20 calories. Si, c'est 38 grammes de pommes. En fait, ils ont voulu voir si 38 grammes de chocolat, c'était la même chose quand on les mange que 38 grammes de pommes.
Ouais, ouais,
alors que ce n'est pas du tout le même nombre de calories.
Et le 300 grammes de pommes, c'était à combien de calories?
200. Comme les 38 grammes de chocolat.
D'accord. Oui, bon, bah, vaut mieux partir sur les grosses pommes, là, des deux bonnes grosses pommes.
Alors, effectivement, après, pendant les deux heures qu'on suivit, donc, hein, les cobayes décrivaient leurs sensations corporelles, ils essayaient de les localiser vraiment bien dans leur ventre, de noter leur degré de faim au bout de tant de minutes, tant, etc., etc., et leur degré de satiété, de remplissage gastrique.
D'accord.
Donc, c'est super intéressant, moi, je trouve.
Ouais.
Et donc, bah, globalement, sur toute la durée du suivi, la faim ressentie après la consommation de 380 grammes de pommes était inférieure à celle ressentie après 38 grammes de chocolat, elle-même inférieure à la faim ressentie après la consommation des 38 grammes de pommes. D'accord. Donc effectivement, premier constat, c'est le volume qui fait que la satiété va être la meilleure.
Oui, d'accord, c'est pas le...
Et finalement, la calorie n'arrive qu'en second, puisque là, quand même, avec les 38 grammes de chocolat, les satiétés étaient plus longues qu'avec 38 grammes
de
pommes.
Oui, on se doute que c'est un effet physique que plus qu'un effet chimique.
Oui, mais ce que je veux dire par là, et si on le lie à notre alimentation de tous les jours, c'est que c'est intéressant d'en avoir conscience.
C'est très intéressant, bien sûr.
Parce que des fois, on va, si je prends la restauration rapide et si je prends les fast-food et ce hamburger qui va nous amener énormément de calories à un quart de notre journée à peu près, et qu'on va manger en 5 minutes et qui a un tout petit volume, c'est logique et peut-être vos auditeurs, vous pouvez faire le test la prochaine fois que vous irez manger dans un fast-food.
Mixez-le
pour vous rendre compte du volume. Et surtout, étudiez combien de temps après vous avez faim.
Hein?
Et voilà, et essayez de voir avec un menu qui soit beaucoup plus léger, où on ait beaucoup plus de céréales, de légumes, voire du poisson, un laitage simple, etc., mais avec un gros volume. Ben, pareil, regardez à quelle heure est-ce que vous avez faim en fin d'après-midi.
Oui, bien sûr.
Alors, ça paraît très, très logique, hein, ce qu'on dit, mais je crois que dans l'application de nos menus tels qu'on les fait là, chaque mois ensemble, David, c'est très intéressant d'avoir ça à l'esprit pour essayer de donner au repas du volume avec des aliments qui sont peu énergétiques, les fruits et les légumes, pour ne pas les citer. Juste pour rappeler aussi la genèse de cette rubrique aussi, ça pourrait être de dire que en fait c'est la distension de l'estomac qui va envoyer qui va donner moyen au cerveau de nous envoyer les signes de satiété. Donc effectivement, quand on met du volume et qu'on mange doucement, bah, plus vite notre cerveau va nous dire halte là, je le sais, tu as à manger.
Et la fondue savoyarde, vous savez?
Bah, le pain, c'est du volume.
Ouais, c'est bien ça. Voilà, et puis si on met un peu de liquide par-dessus, pof.
Ouais,
ça,
mais là, le prochain menu, c'est avril, donc la fondue savoyarde, bon.
Ah, mais tout passe. Eh bien, tentez, Karine, tentez un petit virage là, un peu punk, un peu extrême, un menu un peu pas de côté, inattendu.
Non, je vais rester sur mes fondements.
Bon, d'accord, ok. Ah, jamais il y a eu fondue savoyarde, même un menu de fête, jamais.
C'est vrai. Et pourtant, c'est délicieux.
Le fromage fondu, mais c'est délicieux, comment? Mais alors.
Voilà.
Bon, ben voilà, c'était la chronique calories ou volume aujourd'hui dans la rubrique Diète News de Karine Veck que l'on retrouve en podcast sur le site cfmradio.fr. Un peu de musique et en studio, Waldo Stephen, praticien en médecine traditionnelle chinoise et en réflexologie plantaire. C'est la suite du programme.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
CFM, CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.
Vous venez de nous rejoindre, deuxième partie du mag Aveyron, le mag santé, bien-être et mieux-être même du lundi, avec pour cette deuxième partie, comme annoncé en studio, Waldo Stephen, le samouraï de la médecine traditionnelle chinoise et praticien aussi en réflexologie plantaire. Bonjour Waldo.
Bonjour David.
Vos activités sont partagées entre Rodez et Villefranche-de-Rouergue, on peut le dire comme ça, et sous peu, vous allez d'ailleurs ouvrir un espace du côté de la capitale, hein, à Rodez.
Voilà, vers la fin du mois, je pense.
Ah oui,
oula. Ça a pris un peu de retard, mais normalement à la fin du mois, ça sera bon.
Avec des pédiluves, des bains de pieds, on va pouvoir faire des bains de pieds.
Voilà, ouais. C'est un peu la surprise, mais bon...
Oh mince, voilà. Pardon.
Non, mais c'est très bien de l'annoncer, parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose de commun, c'est assez insolite. Ouais. Ça fait beaucoup de bien, on en a déjà parlé dans cette émission, les bains de pieds, c'est assez agréable, ouais. Donc ce sera à disposition, voilà.
Un bar tapas bains de pieds. Non, c'est pas tout à fait ça, vous aurez l'occasion de nous en reparler. De quoi vous avez choisi de nous parler aujourd'hui? Médecine traditionnelle chinoise, un point d'acupuncture, un peu de philosophie,
un peu tout, un peu tout. Ouais, c'est vrai qu'on va parler aujourd'hui d'un concept un peu particulier. C'est le concept de l'humidité en médecine chinoise. Donc c'est un concept qui est un peu flou, hein, au départ. Alors souvent quand on parle d'humidité, nous on va penser à l'eau. C'est pas tant l'aspect liquide en fait par rapport à l'eau. En fait, l'humidité, c'est un concept qui est bien particulier en médecine traditionnelle chinoise, et c'est une manière de parler de certaines situations en fait qui deviennent gênantes, enfin qui sont gênantes au départ et qui peuvent devenir pathologiques après dans le corps. Donc on va en parler un petit peu plus. C'est relié en fait l'humidité à l'organe de la rate. Donc, faut savoir que voilà, dès que la rate...
Ah bah, je suis bien content que quelqu'un ose parler de la rate.
Voilà. Alors, c'est vrai qu'en Occident, dans la médecine classique, la rate, c'est pas tout à fait les mêmes concepts. Mais voilà, donc la rate, c'est l'énergie de la Terre. C'est l'énergie, en fait, qui va... l'organe de la rate va permettre, en fait, dans le corps, de séparer, en fait, ce qui est bon de ce qui est moins bon. Donc on parle des liquides organiques, donc les liquides purs et les liquides impurs. Et ce qui va se passer, c'est que au bout d'un certain moment, avec certaines faiblesses, on peut développer une mauvaise gestion en fait de ces liquides, due à une fatigue, un surménage et surtout par exemple à une mauvaise alimentation, hein, mais ça peut être aussi les émotions et tout un tas d'autres facteurs. Notamment les facteurs externes, les énergies climatiques, hein, comme le froid, la chaleur, mais aussi l'humidité, ou alors les énergies climatiques combinées, le froid-humidité, ou l'humidité-chaleur. Et donc, en travaillant sur la rate, on va pouvoir améliorer certains symptômes, voire certaines maladies, par le travail énergétique. Donc ça peut être tout un tas de choses. Donc il y a la diététique dont je parlais, il y a aussi le massage, l'acupuncture, toutes ces thérapies complémentaires qui vont favoriser un retour à une meilleure circulation, une énergie plus forte, plus puissante et plus calme.
Le foie, les intestins, les reins, mais c'est vrai que la rate, c'est très peu mis sur la table comme
voilà.
Organe.
Alors que c'est un organe très très important, donc comme je disais tout à l'heure, c'est associé à la terre, hein. La terre, c'est l'intersaison, c'est-à-dire c'est la saison qu'on retrouve entre chaque saison, les quatre saisons. D'ailleurs, donc, c'est par exemple en ce moment pour le passage de l'hiver au printemps, il y a une période qui concerne l'élément terre et dans lequel on peut, et c'est souhaitable, de travailler sur l'énergie de la rate. Voilà. Donc il y a plusieurs manières. L'énergie de la rate, c'est aussi l'énergie de la terre, comme on le disait. Dans la dernière émission, on a parlé aussi de Jan Zhang, c'est la position de l'arbre en Qigong. C'est aussi une manière aussi de travailler, par exemple, en Qigong, se ressourcer, se nourrir en fait de l'énergie, on va dire, de la terre. C'est aussi une manière, par exemple, de travailler sur la terre. Mais au niveau de la rate, on peut aussi quand même aborder principalement les problèmes de diététique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on faut le dire clairement, on mange pas très bien.
Ouais.
Et pour comprendre un petit peu plus le concept de l'humidité, on va dire que la rate, elle doit transporter ces liquides qui sont créés par le corps. Et donc elle va transporter ce qui est pur et elle va favoriser, elle va nourrir les autres organes aussi grâce au transport de ces liquides purs. Et le reste va être évacué, notamment avec le poumon et le rein aussi, qui sont des organes. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que quand elle fatigue, quand elle est à bout, quand on lui demande trop de travail, elle va avoir du mal à séparer un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'elle va, elle va être lente, elle va moins bien fonctionner. Et donc on va se retrouver avec une stagnation de liquide organique en général. Cette stagnation va imager justement ce concept d'humidité, c'est-à-dire qu'on va avoir une humidité dans le corps qui est stagnante et qui empêche, qui obstrue en fait le bon fonctionnement, la bonne physiologie dans le corps. Donc à partir de là, on va avoir certains symptômes, hein, c'est des sensations par exemple de lourdeur, des gonflements, donc tout ce qui va être œdème, c'est important de travailler sur la rate, le rein, le poumon aussi. C'est important de travailler en fait sur cet organe de la rate pour favoriser une certaine clarté des liquides corporels. Donc dès qu'on va avoir des problèmes d'humidité, comme on dit en médecine chinoise, on va avoir des soucis souvent situés au foyer inférieur, donc au niveau du bas du corps. Hein, l'humidité va vers le bas. Hein. D'ailleurs, on transpire par exemple des pieds. Hein, c'est pour évacuer aussi une forme d'humidité. Donc c'est très bien aussi de ce qu'on disait dans certaines émissions, les bains de pied, la réflexologie, le fait de drainer un petit peu le pied. Et on va avoir des stagnations donc, qui commencent par le ventre. Alors quand on parle d'humidité en médecine chinoise, souvent on va parler d'humidité, gonflement, ballonnement au niveau abdominal. Donc tout ce qui va être problème de digestion, ça concerne... Alors souvent nous en Occident, on va dire que ça concerne l'estomac, les intestins, mais on ne parle pas souvent de la rate.
Non, jamais.
Voilà.
Jamais.
Et la rate, c'est vraiment un organe.
C'est tabou, la rate.
Voilà.
On n'en parle pas. Il n'y a que vous, Waldo. Merci.
Alors, j'essaie de faire court sur un sujet qui est vraiment passionnant en médecine chinoise, voire obsédant, en fait. Quand on aborde la médecine chinoise, effectivement, on ne connaît pas grand-chose de la rate. On ne comprend pas forcément ce concept d'humidité. On comprend vite le chaud, le froid. Ça, c'est les concepts qu'on a. Concept d'humidité est plus sournois, il faut l'étudier, il faut l'approfondir. On peut faire aussi une analogie, par exemple, avec un lieu d'habitation. Par exemple, si vous rentrez dans un endroit qui est humide, on ne se sent pas très bien tout de suite, on sent qu'il y a un problème dans une pièce qui n'est pas assez éclairée, où il y a d'humidité dans les murs. Hein, ça produit d'ailleurs une sorte de...
Il n'y a que les champignons qui se sentent bien dans ces endroits.
Voilà. donc, on ressent quelque chose, et c'est ce ressenti énergétique, cette espèce de sensation qu'il y a quelque chose qui stagne dans la pièce, dans l'air et dans les murs, ou dans le sol, on a ce ressenti. Donc c'est le même ressenti qu'on peut avoir dans le corps, qui va s'exprimer sous diverses formes, mais des fois, par exemple, les gens vont dire « Ah, j'ai les jambes lourdes, par exemple. Les jambes lourdes. » Ou « Je me sens lourd, je me sens fatigué, je me sens congestionné. » Et ça, c'est une histoire d'humidité. Alors, quand ça va dans les poumons, ça va provoquer des glaires, ça va provoquer tout un tas d'obstructions respiratoires, hein, l'asthme et tout ça. Et puis, dans chaque partie du corps où ça va provoquer des problèmes. Si ça descend et que l'humidité envahit les pieds, comme on peut dire, on va avoir justement, comme pour les murs, on va avoir des champignons, des mycoses, des symptômes d'humidité au niveau des pieds. Il y a différents concepts par rapport à l'humidité interne, l'humidité externe. Voilà, c'est pas très bon de toute façon de s'exposer à l'humidité externe, on le sait bien. C'est ce qui va provoquer aussi les rhumatismes et les symptômes de l'arthrose. On le dit, par exemple, certaines personnes, ils ont une fracture ou ils ont une blessure articulaire et ils vont dire « Ah tiens, je pense qu'il va pleuvoir parce que je ressens une sorte de lourdeur ou une douleur ». En fait, c'est lié à la perméabilité des tissus qui vont en fait capter l'humidité extérieure et qui va pénétrer le corps en fait. Et cette barrière en fait qui normalement nous protège un petit peu, qui est liée à justement une rate estomac fort, va dans ces endroits-là s'ébrécher en fait. Ça va devenir un peu plus faible et donc l'humidité extérieure, le froid, hein, et l'humidité vont pénétrer en fait dans l'articulation, vont bloquer l'articulation. Par le froid, donc par la raideur, et par l'humidité, donc par les gonflements, et donc du coup, ce qui accentue les frottements entre les tissus et donc qui crée de l'inflammation.
Les personnes donc, qui ont de l'arthrose sont d'excellentes stations météo. Hein. Ça, c'est toujours important d'avoir voilà. quelqu'un qui a de l'arthrose à côté de toi. Comme ça, ça permet de prévoir un peu ses activités pour la semaine.
C'est ça.
Pardon.
Non, mais t'as raison de dire ça parce que c'est très fréquent qu'on entend les gens parler de ça.
On en rigole, mais oui.
Et on fait pas assez attention, mais effectivement, c'est des baromètres. C'est une manière de voir justement ce concept de l'humidité, de le ressentir et de le comprendre. Donc, comme je disais, donc il y a cette histoire de lieu d'habitat, par exemple dans une maison qui est trop humide, on s'y sent pas bien, ça peut provoquer des maladies, tout ça. Et puis dans son propre corps, effectivement, d'avoir tout le temps de l'humidité qui stagne, c'est pas bon du tout. Donc pour ça, on a plusieurs points d'acupuncture. Bon, c'est bien de voir quelqu'un pour ça, hein, tout à fait honnêtement. C'est pas parce qu'on va stimuler certains points qu'on va vraiment guérir d'un problème concret. Par contre, on peut faciliter un mieux-être par la stimulation, notamment en acupression, ou alors avec d'autres techniques, comme justement dans les fondements de l'acupuncture, et le travail plus global sur les organes et tout ça. On peut quand même aller travailler sur quelques points. Donc un point qui est extraordinaire pour libérer de l'humidité et qui va faire beaucoup de bien, notamment au système digestif, mais aussi pour tous les problèmes de membres inférieurs, les gonflements des jambes, les œdèmes, les jambes lourdes et tout ça, c'est le point rate 9. Donc rate 9, méridien de la rate, yin ling chuan en chinois. Donc ça, c'est un point qui va se retrouver en fait en dessous du genou, sur la face interne, dans un creux, au bord du tibia. Donc en fait, si on pose la paume de la main sur le genou, on pose le pouce sur la partie latérale interne du genou, on descend un petit peu, on se retrouve dans un creux, en dessous de la tête du tibia. On se retrouve dans un creux, donc contre le tibia, et ce point-là, on peut le stimuler, donc on peut le masser, on peut faire un peu d'acupression dessus. Alors, c'est pas un point qu'on va stimuler forcément en moxibustion, parce que c'est une zone assez où la peau est assez sensible. On va plutôt le stimuler par pression. On peut faire, bien sûr, voir un acupuncteur aussi pour qu'il travaille dessus avec des points complémentaires. Et on va le masser avec le pouce. On peut le masser, on peut le tapoter aussi avec les doigts. Et ça, on peut le faire plusieurs fois par jour. Ça va avoir pour effet de libérer un petit peu l'humidité dans les jambes et aussi au niveau abdominal. Alors pourquoi ? Parce qu'aussi le genou, c'est comme une écluse un petit peu. Il peut y avoir une différence de pression entre les voies circulatoires, hein, au niveau veineux, au niveau... Donc c'est un point qui va aussi qui va faciliter la guérison du genou. Quand on a un genou gonflé, qu'on a vraiment de l'humidité dans le genou, on peut travailler ce point parmi d'autres, hein, parce qu'il y en a d'autres. Ça va vraiment permettre de fluidifier la circulation au niveau des jambes.
Une nouvelle chronique passionnante. Je vois bien qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le concept d'humide, il faudra peut-être y revenir, parce que je commence à percevoir un peu le cadre ou l'univers où nous emmène cet humide en médecine traditionnelle chinoise. Mais là, on se fait rattraper un petit peu par le temps. Je serais presque tenté de vous demander de nous livrer la citation de la semaine,
voilà,
Waldo,
mais,
pardon.
Mais il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai que c'est un concept dont on reparlera, parce que c'est vraiment un thème qui est récurrent et qui revient abondamment à chaque fois qu'on va parler de médecine chinoise, parce que l'humidité va être un support aussi pour d'autres problèmes. Ça va être un peu une base, hein, c'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de la météo, s'il fait froid, ça va. S'il fait froid et humide, c'est très dérangeant. S'il fait chaud, ça va. S'il fait chaud et humide, c'est très dérangeant. Pourquoi ? Parce que l'humidité facilite, comme le vent, va faciliter en fait la pénétration de ces énergies externes pathogènes. Donc, bien sûr, on peut parler un petit peu. Je peux donner ma citation. C'est pour parler aussi de diététique, parce que c'est vrai que c'est la diététique aussi qui va compter. Donc, on peut parler de ce qui va tonifier la rate, les aliments qui vont tonifier la rate.
Ah oui.
Il faut aussi parler de simplement, on en avait déjà parlé dans ces émissions, ce qui la fatigue plutôt, et ce qui la fatigue, c'est tout ce qui est malbouffe, bien sûr. Tout ce qui est trop sucré, tous les excès, ça va fatiguer la rate. Donc on a déjà parlé un petit peu de tout ça. Je conclurai tout simplement en disant, c'est un proverbe chinois qui dit 25% de ce que tu manges te nourrit. Donc 25% de ce que tu manges te nourrit. 75% de ce que tu manges nourrit ton médecin.
Ah ouais, ah bien, j'aime beaucoup. Ouais. Merci Waldo.
Avec plaisir.
À rendez-vous dans 2 semaines et on retrouve votre intervention sous peu sur le site cfmradio.fr. C'était le mag de ce lundi 13 mars. Merci à toutes et à tous. La suite du programme dans un instant.
CFM Radio. Votre radio dans l'Aveyron.